14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Le chirurgien reconnaît pourtant avoir vu ses parents quelques heures avant leur décès. C'est même lui qui a fait la prise de sang, qui a permis ensuite aux enquêteurs de déceler des traces de curare. Jean-Paul Gournier invoque le possible suicide de ses parents, âgés de 75 et 81 ans, mais jamais la seringue ni le flacon mortel n'ont été retrouvés.
Bonjour. Curare, héritage et suspicion. Il faudrait ajouter mystère, car 10 ans d'enquête et 2 procès aux assises n'ont pas réussi à expliquer la mort d'un couple de personnes âgées, les Gournier, André et Geneviève Gournier, une double mort simultanée dans le huis clos d'un salon devenu leur tombeau. Les investigations ne vont cesser d'osciller entre un pacte suicidaire conclu par les époux ou un assassinat. Leur fils, Jean-Paul Gournier, un chirurgien réputé, va être désigné comme le suspect numéro 1, un homme qui aurait pu tuer ses parents, et pas vraiment au nom d'une quelconque compassion médicale. Dans ce théâtre d'ombre, les enquêteurs et les juges vont devoir se méfier sans cesse des apparences, des portraits changeants faits des uns et des autres. Pourquoi la vérité n'a-t-elle jamais jailli dans cette affaire? Qui, donc, a plongé dans un sommeil définitif un couple qui ne s'aimait plus? Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de ce dossier.
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Gournier, du nom de ce couple de retraités installé dans une commune limitrophe de Saint-Étienne dans la Loire et que l'on va retrouver mort chez eux à l'automne 1999. Ce mardi 30 novembre 1999, en milieu de matinée, la femme de ménage du couple Gournier garde son doigt appuyé sur la sonnette de la porte d'entrée. Personne ne répond dans le pavillon de cette rue tranquille de Saint-Priest-en-Jarret. André Gournier, 74 ans, et son épouse Geneviève, 92 ans, sont pourtant généralement prompts à venir ouvrir. Mais ce matin-là, ni l'un ni l'autre ne se manifestent. Les voisins sont alertés, les pompiers forcent la porte. Ils entendent le poste de télévision qui fonctionne dans le salon où un spectacle macabre les attend. André Gournier, habillé comme s'il allait sortir, lunettes sur le nez, gît de tout son long sur le canapé, la jambe droite pendante, la tête sur l'accoudoir. Geneviève Gournier, vêtue d'un corsage et d'un pantalon, est affalée dans le fauteuil. La vie du couple semble brutalement s'être arrêtée, sans raison apparente. Les décès du mari et de la femme sont constatés. Aucun désordre ne règne dans l'appartement, pas de traces d'effraction, pas de lettres qui pourraient expliquer cette scène qui ressemble à un suicide. Les pompes pied note toutefois que le gaz de la cuisinière était ouvert sous une cocotte minute vide et que le fer à repasser était branché. Celui-ci a consumé en partie un rideau qui ne s'est pas véritablement embrasé. Une enquête pour recherche des causes de la mort est ouverte. Les autopsies d'André et Geneviève Gournier ont bien du mal à expliquer les causes de leur décès. L'ingestion d'une substance toxique aurait-elle occasionné la décompression cardiaque? Un mois après le drame, des analyses plus poussées de toxicologie permettent de noter chez l'homme des traces de chloroquine, mais à un taux simplement thérapeutique. André Gournier, ingénieur des arts et métiers, avait longtemps été entrepreneur en Afrique et prenait de la chloroquine pour soigner sans doute des accès de paludisme. En revanche, le mari, tout comme son épouse, présente dans l'organisme du tracrium, un produit qui contient du curare, une substance bien spécifique puisqu'elle est uniquement utilisée par les anesthésistes et quelques médecins. Le tracrium est injecté en intraveineuse. Il n'est pas facile de s'en procurer. Celui-ci n'est généralement disponible que dans l'enceinte d'un bloc opératoire. Selon le dosage, le produit bloque les centres respiratoires du patient. L'arrêt cardiaque peut survenir en quelques minutes. Dans le cas présent, l'expert parle d'un empoisonnement, même si aucune seringue n'a été retrouvée dans la maison. Les Gournier ont une fille, Marie-Béatrice, et un fils, Jean-Paul. C'est ce dernier, entendu dans l'heure suivant la découverte des corps, qui retient l'attention. Il est en effet la dernière personne à avoir vu le couple vivant, et qui plus est, il est médecin. Ce chirurgien de 40 ans habite lui aussi à Saint-Priest-en-Jarret, dans une rue toute proche. Il est passé chez ses parents la veille, vers 19h30, 20h. Il regardait la télé. Il leur a fait une prise de sang car il se plaignait de malaise. Le docteur Gournier craignait une intoxication alimentaire depuis qu'ils avaient consommé des champignons lors d'un dîner. Il remet aux enquêteurs les prélèvements sanguins effectués la veille et qu'il n'a pas eu le temps de confier à un labo. Ce sang ne contient alors aucune trace de tracrium. Et bien sûr, on va voir dans cette heure du crime pourquoi Jean-Paul Gournier va retenir toute l'attention des enquêteurs et du juge d'instruction. On va détailler tout cela dans le chapitre suivant de l'heure du crime. On va rester un instant sur cette scène de suicide ou de crime, on ne sait pas trop. Et on en parle tout de suite avec notre premier invité qui est dans le studio de l'heure du crime, Yves Bordenave. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Yves Bordenave, vous êtes journaliste au Monde et vous avez suivi cette affaire, une partie de l'enquête et puis le et les procès qui suivront, mais on en parlera dans un chapitre suivant. C'est compliqué cette histoire dès le début parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas grand-chose de la mort de ce couple. C'est difficile à établir.
Effectivement, c'est difficile à établir et il y a deux, trois... interrogations qui rendent improbables certaines explications. À savoir, est-ce que ces deux personnes, qui sont des personnes âgées, un petit peu fatiguées au bout du rouleau, est-ce que ces deux personnes auraient pu se suicider en s'empoisonnant et en se piquant avec en l'occurrence du curare ? Mais le problème, c'est que si elles le font, on doit trouver une seringue à proximité des deux cadavres.
Et là, Yves Bordenave, il n'y a rien.
Et on ne trouve aucune seringue. Alors, moi j'ai le souvenir d'un débat qui avait animé aussi bien l'enquête que le procès. C'est, mais est-ce que, parce qu'on suspectait en l'occurrence que peut-être la dame...
Geneviève,
voilà, j'ai cherché son prénom.
82 ans, ma langue enfourchée tout à l'heure, mais elle a bien 82 ans, Geneviève Gournier.
Aurait pu injecter le poison à son mari et se l'injecter ensuite à elle-même. Mais on se disait, mais est-ce que c'est un poison violent qui est assez,
fatal tout de suite,
voilà,
c'est ça?
En tout
effet
cas, les
immédiat.
Experts expliquaient qu'on ne reste pas 10 minutes éveillé, quoi, ni
bien
même
sûr.
5. Et donc, est-ce qu'elle aurait eu le temps de se lever, de se débarrasser de cette seringue? Et quand bien même elle s'en débarrasse, elle la met où? Elle la jette dans une poubelle. Or, il n'y a aucune trace de seringue nulle part, ni à proximité, ni dans une poubelle de l'appartement.
Et ça, c'est important de le dire tout de suite, parce que ça veut dire que les enquêteurs, ils tranchent pas. En tout cas, les experts ne tranchent pas l'origine de cette mort, tout de suite.
Les experts ne tranchent pas, et il y a quand même un défaut d'enquête, hein, d'expertise en l'occurrence, puisque le premier juge d'instruction qui est saisi de cette affaire ne s'interroge pas trop non plus. Il ne demande pas une série d'expertises, d'analyses qui auraient pu permettre d'établir est-ce que curare ou pas, quelle quantité, à quel moment ça aurait pu être mortel, etc.
C'est pas très
poussé. Il y a des ratés importants au moment de l'enquête, au moment de l'information judiciaire.
Et on sait, et vous le savez, Yves Bordenave, qui traitait beaucoup les affaires judiciaires, que dès lors qu'une enquête démarre mal,
finit mal aussi.
Et ça peut finir mal. On va voir comment celle-ci finit d'enquête. On a en ligne Maître André Buffard. Bonjour Maître.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat dans cette histoire de Christiane Sinelli. C'est l'une des sœurs de Geneviève Gournier, l'une donc des deux victimes que l'on retrouve mortes dans ce pavillon. Maître Buffard, très simplement, première question, qui sont André et Geneviève Gournier?
Vous l'avez dit, c'est un couple de personnes aisées qui sont âgées. Elle est plus âgée que lui. Leurs rapports au moment des faits sont difficiles. On sait qu'il y a des disputes fréquentes, mais rien, contrairement à ce qui sera plaidé et expliqué plus tard, ne laisse à penser une quelconque volonté suicidaire. En particulier en ce qui le concerne lui, effectivement, ancien ingénieur, que vous avez décrit tout à l'heure comme fatigué, il est encore fringant puisque son épouse lui reproche de fréquenter des prostituées. Quant à elle, c'est une personne extrêmement énergique qui voyage beaucoup et au moment de son décès, elle a programmé un voyage en Birmanie et elle a fait part à son entourage de sa volonté de divorcer de façon à se libérer de ce lien avec un homme qu'elle n'aime plus pour pouvoir effectivement être plus libre et voyager.
Alors ça laisse place à Maître André Buffard à beaucoup de spéculations et beaucoup d'interrogations. Si on en reste un petit peu à cette scène, on ne sait pas à l'époque, scène de crime, scène de suicide, on s'interroge, en tout cas dans le huis clos de ce pavillon, on sait que après 20 heures, le téléphone des Gourniers n'a plus répondu, c'est bien ça ?
C'est ça. Ce qui veut dire qu'ils sont décédés plus tôt. Et ce que l'on sait, parce que c'est lui-même qui le dit, c'est que c'est leur fils qui est la dernière personne à les avoir rencontrés, puisqu'il explique effectivement avoir pratiqué sur l'un et l'autre, bizarrement, une prise de sang parce que ceux-ci allégraient des problèmes intestinaux qui pourraient être dus à l'ingestion de champignons.
Pourquoi pas, après tout ?
Pourquoi pas ? Tout est possible en ce monde.
J'ai envie de dire, il est dans son rôle. Le fils, il vient voir ses vieux parents qui souffrent de maux d'estomac. Il leur fait une prise de sang. Il n'y a rien d'anormal là-dedans.
Alors, ça implique que ses vieux parents lui en aient parlé précédemment, qu'ils soient venus avec du matériel adéquat et que effectivement, il procède à cette prise de sang. Mais rien, à part ce qu'il dit, lui, ne laisse à penser qu'ils ne vont pas bien. Ils ont effectivement dîné la veille ou l'avant-veille chez des amis, et les témoins qui seront entendus, en particulier à l'audience, diront qu'il n'y avait rien dans leur comportement après le repas ou dans les heures qui suivent qui laisse à penser qu'ils étaient malades de quelque manière que ce soit.
Bonjour Maître François Saint-Pierre.
Bonjour, bonjour, merci de votre invitation. J'ai écouté avec intérêt André Buffard et Yves Bordenave. Je voudrais avant tout dire que j'ai lu il y a quelques jours dans la presse.
Allez-y, maître.
Jean-Paul Gournier était mort, et je ne sais pas de quoi, sans doute était-il malade, je ne l'avais plus revu depuis longtemps. Donc j'ai une pensée pour lui et puis pour ses enfants qui ont subi cette épreuve judiciaire de manière extrêmement douloureuse.
Alors on le comprend, vous êtes évidemment là, vous avez été l'avocat de Jean-Paul Gournier dans cette affaire. On parlait de cette scène pour le moins étrange, on ne sait pas trop la cause de la mort à ce moment-là de l'enquête. Maître Saint-Pierre, qui est Jean-Paul Gournier ? Il est normal que la justice s'intéresse à lui, c'est la dernière personne à avoir vu vivant les victimes.
Oui, ça c'est l'hypothèse policière de base, le dernier qui a vu la victime est le premier des suspects, bien entendu. Mais l'affaire est si obscure que le premier juge d'instruction avait bouclé le dossier avant même toute mise en examen de Jean-Paul Gournier. C'est dire que c'était vraiment pas évident du tout. Et ce juge d'instruction, donc, a quitté son bureau, un nouveau juge est venu, et comme c'est souvent, le nouveau juge revisite les dossiers et a relancé l'affaire.
Qui est-il, Jean-Paul Gournier, en quelques mots, maître ?
Mais Jean-Paul Gournier, à l'époque, c'est un chirurgien cardiaque, qui procède à des interventions chirurgicales à cœur ouvert. C'est donc un type assez brillant, un chirurgien de très bon niveau qui exerce à Saint-Étienne, à Lyon. Il a une quarantaine d'années, il est marié, il a trois enfants, ils vivent dans une villa de Cossu, bref, tout lui réussit et je note qu'il n'a pas de souci d'argent. Voilà. Il a, c'est vrai, une relation que je qualifierais de fusionnelle avec sa mère, avec son père, et il est très très proche d'eux et partage leurs soucis intimes, et notamment la discorde qui sépare le père de la mère en raison, comme le disait de manière assez crue André Buffard, des fréquentations de son père. Mais est-ce que cela constitue un mobile ? Le deuxième juge d'instruction a pensé que c'était l'héritage qui l'intéressait. Je n'y ai jamais cru, je n'y crois toujours pas.
Et on va revenir évidemment dans cette heure du crime sur ces histoires d'argent, problème d'argent ou pas d'argent. Les policiers pensent une chose, la défense pense autre chose. Les conclusions d'un expert toxicologue évoquent clairement un homicide volontaire de type empoisonnement. Tous les regards vont à nouveau se porter sur le docteur Gournier, qui manquerait de sincérité. 25 octobre 2000, le docteur Jean-Paul Gournier répond aux enquêteurs de la police judiciaire dans le cadre de l'enquête ouverte pour empoisonnement avec préméditation. Il dit ignorer les causes de la mort de ses parents avec qui il avait des rapports, poursuit-il, tout à fait cordiaux et dépourvus d'animosité. Il explique avoir tout d'abord pensé que sa mère, Geneviève, s'était débarrassée de son père. Elle ne supportait plus cet homme qui n'avait cessé de la tromper avec d'autres femmes. En 1974, alors âgé de 50 ans, il avait séduit une nièce de la famille qui en avait tout juste 20. Il avait eu plusieurs maîtresses et fréquentait toujours une prostituée. À certains de ses amis, Geneviève, humiliée et furieuse, avait dit un jour « Je le tuerai ». Avant de me tuer, je ferai les choses proprement. Le fils raconte qu'il a désormais changé d'avis. Il est convaincu que son père et sa mère ont mis fin à leur jour d'un commun accord car ils ne supportaient pas leur déchéance. André Gournier avait des pertes d'équilibre et avait chuté à plusieurs reprises. Il jouait de moins en moins au golf. Geneviève, quant à elle, avait du mal à monter les escaliers. Entendue lors de l'enquête, la fille du couple, Marie-Béatrice, confirme l'entente dégradée de ses parents qui aurait pu provoquer un geste fou de sa mère. Elle ne croit pas à l'implication de son frère cadet dans un quelconque empoisonnement. Les enquêteurs ne sont pas tout à fait sur cette ligne. Ils estiment que Jean-Paul Gournier a trop souvent varié de version pour être parfaitement honnête. À certaines de ses connaissances, le médecin a évoqué tour à tour une intoxication au monoxyde de carbone, un empoisonnement alimentaire, puis un suicide collectif. Il en veut pour preuve le fait que son père avait, par écrit, définitivement arrêté les comptes du ménage le 15 novembre 99, 15 jours donc avant la soirée fatale. Le 5 mars, puis le 21 mars 2001, devant le juge d'instruction Jacques Chauveau, le chirurgien ressort la version d'un geste délibéré de ses parents. Il explique que sa mère a pu se procurer du tracrium lors d'une hospitalisation, ce produit se trouvant, selon lui, sur les chariots d'urgence ou lorsqu'elle rendait visite à un médecin hospitalier après avoir été rapatrié d'urgence d'un voyage en Indonésie. Juste avant de quitter le tribunal de Saint-Étienne, le juge confie à Jean-Paul Gournier qu'il croit en son innocence. Octobre 2001, le juge Jean-Luc Jaillet reprend le dossier. Il ne croit pas, lui, à la thèse d'un suicide familial ou d'un meurtre commis par l'épouse, ancienne infirmière, qui se serait ensuite suicidée. Selon lui, l'injection du tracrium l'aurait très rapidement paralysée et tuée. Elle n'aurait pas eu le temps de faire disparaître la seringue et l'ampoule, introuvables dans la maison. Un tiers a donc fait l'injection. Le juge Jaillet s'interroge sur le train de vie du docteur Gournier, qui, malgré de confortables revenus, n'arriverait pas à joindre les deux bouts. Il avait emprunté à sa mère 400 000 francs. L'héritage de ses parents fortunés, 2,5 millions de francs, aurait pu le sortir de cette mauvaise passe. Jean-Paul Gournier espérait obtenir un non-lieu, mais il reste mis en examen, placé sous contrôle judiciaire. Aucun mandat de dépôt n'est cependant décerné contre lui. Et voilà donc le docteur Gournier, le docteur réputé et aimé de ses patients qui est placé dans la peau du suspect numéro un. Ses proches ne croient pas à son implication. Maître François Saint-Pierre, vous avez été l'avocat de Jean-Paul Gournier. Je disais, ses proches ne croient pas à son implication. Même sa sœur aînée, Marie-Béatrice, penche pour le double suicide des parents.
Oui, c'est exact. Non seulement sa famille l'a toujours soutenu, mais son entourage social. Je me souviens devant la cour d'assises de Saint-Étienne où la salle était bondée de proches, d'amis. Toute la petite bourgeoisie stéphanoise était là qui le soutenait. Et je pense que ça a conforté Jean-Paul Gournier dans ce sentiment d'inexpugnabilité. Et il n'a pas été très convaincant du coup. Ça, c'était un piège, bien sûr. Mais la justice l'a condamné en première instance sans aucune motivation avant de l'acquitter en seconde instance et sans davantage de motivation.
Et on va revenir, Maître Saint-Pierre, sur ces procès. Là, en l'état, il est mis en examen, il est placé sous contrôle judiciaire. Il y a tout de même un problème dans cette histoire, c'est que la fameuse seringue, on la trouve pas.
Attendez. Toute affaire criminelle, notamment à base d'empoisonnement, est excessivement complexe. Donc les évidences ne sont pas des explications simples. Cette affaire de seringue, elle a été examinée à l'instruction. J'ai demandé au juge d'instruction différentes vérifications et j'ai eu gain de cause à chaque fois. Il se trouve que dans le salon des Gourniers, je parle des parents, il y avait une cheminée, qu'elle était allumée, que Madame Gournier a eu le temps de s'injecter un produit, de jeter la seringue dans la cheminée allumée et de s'asseoir. Ça a été démontré de manière scientifique.
Il n'y a pas eu de recherche dans la cheminée, Maître Saint-Pierre.
Mais bien sûr que si. Tout cela a été passé au crible et la seringue a été consumée, si vous voulez, par le feu. Bon, donc cette hypothèse-là, elle est présente. Il y a un doute, évidemment, mais ça ne veut pas dire que ce soit Jean-Paul Gournier qui soit venu piquer ses parents et reparti avec. Vous savez, s'il avait voulu réaliser le crime parfait, il aurait évidemment laissé en évidence une seringue. Ça va de soi, il ne serait pas reparti avec. C'était tout ça, un imbécile. Et par conséquent, cette question de seringue qui a vraiment manifestement convaincu le brave jury populaire, bon, n'a aucune pertinence. Je vais vous donner, si vous voulez bien, un contre-exemple qui est beaucoup plus significatif.
Rapidement, parce que je voudrais qu'on entende Maître Buffard. Allez-y.
Oui, mais je préfère que vous m'entendiez, vous savez.
Je sais bien, mais vous n'êtes pas avocat pour rien, cher maître.
Je vais vous dire en un mot. Et André Buffard, redoutable procureur dans cette affaire, pourra répondre ou pas. Les analyses d'urine notamment ont établi que les taux retrouvés chez monsieur et madame n'étaient pas du tout les mêmes. Ceux dont je déduis qu'ils ne sont pas morts au même moment. Par conséquent, l'hypothèse d'un double assassinat quasiment concomitant commis par Jean-Paul n'a pas de sens.
Alors, je veux écouter Maître Buffard. Maître Buffard, vous entendez, on va pas faire un débat, mais
non.
Le fait est, c'est que le premier juge qui est saisi, il le dit, vous êtes innocent.
Alors, le premier juge ne fait rien du tout. Vous savez, dans la justice, il y a des gens qui travaillent, puis il y a des gens qui ne font rien, et il y a des gens qui veulent trouver, puis des gens qui n'ont pas envie de chercher. Le premier juge, il n'a pas envie de chercher, parce que le docteur Gournier, comme le disait excellemment mon confrère Saint-Pierre, c'est un pur produit de la bonne bourgeoisie locale, c'est un chirurgien connu. Et le juge d'instruction, devant ce notable, il se sent tout petit et il n'imagine pas qu'il puisse être un criminel, lui qui voit tous les jours la lie de la terre. Alors, il sympathise avec lui et même il aura ce geste émouvant au terme de son instruction, avant de partir. Il lui dit, vous savez, docteur, je vous crois innocent. Il n'a fait aucune investigation, il n'a demandé aucune expertise. C'est simple, c'est le nouveau juge d'instruction qui, lui, va faire son travail, qui ordonnera les expertises, qui détermineront que les époux Gournier ne sont pas morts d'un malaise, mais de l'ingestion de trachrium.
Alors, un mot, Maître André Buffard, sur cette fameuse seringue. On a entendu Maître Saint-Pierre, on connaît son point de vue. Quel est le vôtre ?
Le mien, il est très simple. D'abord, je n'ai pas le souvenir que la seringue ait été retrouvée dans la cheminée. L'hypothèse du docteur Gournier, quand il choisira la deuxième ou la troisième thèse, à savoir que sa mère aurait pu tuer son père, puis s'injecter du poison et aller jeter la seringue dans la cheminée, elle n'a jamais été retrouvée, cette seringue. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mon confrère vous dit, vous affirme, qu'elle avait tout le temps de tuer son mari, puis de s'injecter le produit, puis d'aller tranquillement jeter la seringue dans la cheminée, puis de revenir mourir dans un fauteuil. Tous les experts ont dit que c'était impossible, sauf au cours du deuxième procès, où, si j'ai bien compris, on a fait venir un expert canadien qui a dit « Oui, c'est possible, on peut s'injecter du curare et se promener pendant 5 minutes ou 6 minutes », ce qui est contraire à toutes les expertises qui figurent au dossier.
Oui, parce que ces premières expertises, elles disent effectivement que ça avait un effet foudroyant.
Foudroyant. Le trachrium, c'est ce qu'on vous injecte quand on va vous opérer. Je ne sais pas si vous avez déjà subi une opération avec anesthésie générale, ça a été mon cas. On vous injecte le trachrium et en moins de 30 secondes,
vous dormez.
Vous partez dans les vapes.
Oui, c'est ça. Vous dormez, vous vous écroulez. Yves Bordenave, journaliste au Monde, il y a tout de même un étrange climat qui règne dans ce pavillon. Un couple qui se déteste. Cette seringue qu'on ne retrouve pas, autant dire que c'est pas le mystère de la chambre jaune, mais on n'est pas très loin.
Effectivement, on peut parler d'un étrange climat, à savoir d'abord un étrange climat entre le couple, et un étranchement aussi dans la relation au fils, contrairement aux affirmations qui ont été faites, notamment dans le rapport financier, parce que quand Maître Saint-Pierre dit que son client n'avait pas de soucis financiers, j'ai le souvenir que c'est abordé au moment de l'enquête et ça revient au moment du procès. À ce moment-là, son client doit rembourser une dette mensuelle qui s'élève à peu près à 60 000, on est en francs, 60 000 francs. Il a un revenu mensuel qui n'est guère supérieur à ses 60 000 francs, en tout cas revenu salarié. Et si cet homme n'est pas aux abois, il a emprunté à sa mère, comme vous l'avez mentionné, il a des besoins financiers. Et donc il y a effectivement un rapport qui est une relation qui est pour le moins curieuse, on va dire.
Des années vont s'écouler sans que l'enquête ne connaisse de rebondissements majeurs. En février 2006, le juge d'instruction va finalement estimer que le docteur Grognier doit être renvoyé devant une cour d'assises. 16 juin 2008, Jean-Paul Grognier, chirurgien bien connu dans plusieurs cliniques de Lyon, Saint-Étienne, est dans le box des accusés de la cour d'assises de la Loire. Le médecin comparé libre, il n'a jamais effectué un seul jour en détention. Il est suspecté d'avoir tué ses parents lors d'une prise de sang. Il aurait vissé une dose fatale de tracrium contenant du curare sur une seringue, puis maladroitement maquillé le double homicide en suicide familial. Quelques mois avant le procès, le docteur Grognier avait indiqué au journal Le Progrès qu'il allait jouer la transparence. « Je conteste tout. On m'a toujours appris à ne jamais trahir la confiance des gens. » À l'audience, son avocat Maître François Saint-Pierre conteste les conclusions des experts sur la mort quasi instantanée de Geneviève Grognier. Sitôt le curare injecté, ses muscles se seraient paralysés et le cœur se serait arrêté. La défense indique tout au contraire que Geneviève a certainement eu le temps de se débarrasser de la seringue en la jetant par exemple dans la cheminée. « Je veux bien tous les reproches, mais pas celui d'avoir tué mes parents », lance l'accusé. Pour l'accusation, l'argent, cet argent qui faisait défaut à un chirurgien croulant sous les dettes, serait le mobile de son double crime. La certitude de mettre la main sur une bonne partie de l'héritage. Sa sœur, Marie-Béatrice, vole au secours de l'accusé. « Maman a mis à exécution ce qu'elle avait décidé, ce n'est pas Jean-Paul », assure-t-elle. L'avocate générale réplique « Il n'y a pas de crime plus odieux que celui qui consiste à donner la mort à ceux qui vous ont donné la vie ». L'accusation admet des failles, l'absence de preuves, mais il ne s'agit pas d'un double suicide. « Je suis innocent d'une telle barbarie », répond le docteur Grognier. Les jurés ne le croient pas. 25 ans de prison. Et voilà donc le docteur Grognier qui prend le chemin de la maison d'arrêt. Procès discret, il faut le dire, car cette affaire a été révélée sur le tard. Yves Bordenat, vous êtes journaliste au Monde, vous avez suivi ce procès. Quelle est, en quelques mots, l'ambiance qui règne sur cette audience ?
L'ambiance est assez curieuse, parce que on a davantage l'impression d'assister à une sorte de, comment dire, de one-man show que donne le chirurgien particulièrement réputé, particulièrement apprécié au sein de la bourgeoisie stéphanoise, qu'à un procès où ce même chirurgien est accusé d'un double crime, en l'occurrence du double crime de ses parents. Je me souviens, effectivement, il comparaît libre. À toutes les suspensions d'audience, il circule dans les travées, il serre des mains, il salue...
Ah ben c'est un notable.
Il salue ses patients, il dit bonjour aux uns, bonjour aux autres, il distribue des sourires, il est très sûr de lui, il n'hésite pas à reprendre le président de l'audience. Enfin, il n'est pas du tout dans la peau d'un... On n'a pas l'impression de voir un homme accusé à tort ou à raison, c'est une autre chose. Enfin, quand on compare aux assises et qu'on encourt une peine, en l'occurrence des perpètes, on est un petit peu ému. Lui, pas du tout. Il est très sûr de lui. Il est au spectacle et il se produit devant son public.
Maître François Saint-Pierre, votre client est accusé. Il est condamné, 25 ans de prison, je l'ai dit. Est-ce qu'il a payé son attitude, finalement, cette espèce de morgue qu'il a affichée ?
Oui, je suis d'accord avec Yves Bordenave. Hein. Cette ambiance était tout à fait délétère et forcément à jouer contre lui. Nous étions avant la réforme de 2011 sur la motivation des verdicts de cour d'assises. J'insiste. Ça veut dire que la cour d'assises l'a jugé et condamné en son intime conviction, celle des jurés, des magistrats. Et puis après, il sera acquitté, même chose, sans aucune motivation. Et on a là vraiment le caractère totalement archaïque de cette justice criminelle de l'époque qui condamnait ou acquittait les gens sans en rendre compte. Ce qui fait que là, on en parle plusieurs années après, tout ça est flou. Est-ce que c'est lié à son attitude ? Et moi, je dis, il faut des preuves. Or, ici, nous avions un véritable problème de preuves. Bon, que M. Gournier père soit mort, empoisonné, oui, c'est une évidence. Sa femme, elle aussi, mais je le redis, pas au même moment. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas elle et que c'est davantage Jean-Paul Gournier ? Bah, rien du tout. On reste dans un brouillard qui ne s'est toujours pas levé aujourd'hui, des années après.
Maître André Buffard, vous êtes l'avocat, vous, à ce procès de Christiane Sinelli. C'est l'une des sœurs de Geneviève Gournier, partie civile. Vous partagez ce sentiment de ce brouillard qui règne sur cette audience ? Finalement, on ne sait pas grand-chose sur ce Gournier.
Non, il n'y a pas de brouillard du tout. Il y a effectivement, comme le dit Bordenave, un homme qui est sûr de son fait, qui donne des leçons aux experts, qui rabroue le président, qui tente d'influencer les témoins et qui ne doute pas une seconde qu'il va être acquitté sur sa bonne tête. Vous oubliez dans le rappel de ce procès un élément très important.
Allez-y,
c'est que le dossier devait venir une première fois devant la cour d'assises et quelques jours avant le procès, un témoin s'est manifesté en disant « Moi, je sais tout, la mère de Jean-Paul Gournier m'avait dit qu'elle voulait tuer son mari et se suicider après. » Et puis, la défense de Jean-Paul Gournier, à la suite de ça, demande un supplément d'information et qu'on entende de très nombreux témoins de moralité de Jean-Paul Gournier. Le juge d'instruction, la cour d'assises, le président de la cour d'assises va faire droit à cette demande, redésigner le juge d'instruction pour procéder à un supplément d'information. Mais dans le cadre de ce supplément d'information, le juge d'instruction, très habilement, va mettre sur écoute à la fois Jean-Paul Gournier et tous les témoins qu'il veut faire citer. Et quand on entend, quand on lit le récit de ses écoutes téléphoniques, on s'aperçoit que Jean-Paul Gournier organise la thèse de sa défense, demande aux témoins de faire de faux témoignages pour appuyer ce qu'il dit, essaie même de contacter des experts, des confrères à qui il demande s'il serait prêt à venir devant la cour d'assises pour accréditer sa thèse sur le tracrium qui n'aurait pas d'effet immédiat.
Ce qui, selon vous, cette attitude a causé effectivement aussi une explication à sa condamnation.
Hein. Ça va participer à sa perte, parce que lorsque les témoins viendront devant la cour d'assises et seront mis, pour un certain nombre d'entre eux, en face des demandes qui a été faites par Jean-Paul Gournier de faire des faux témoignages, certains d'ailleurs reconnaissant des faux témoignages, oui, ça ne fera pas une impression excellente en ce qui concerne la personnalité.
Ça ne fera pas effectivement une impression convenable. François Saint-Pierre, avocat de Jean-Paul Gournier, fait aussitôt appel du verdict. Il souhaite que son client soit remis en liberté. Tout va se jouer un an plus tard, lors du deuxième procès. Le 22 juin 2009, Jean-Paul Gournier, 49 ans, réapparaît devant la cour d'assises d'appel de Lyon. Une année passée en détention a émoussé son arrogance et ses certitudes. Il explique ainsi pourquoi il est resté de marbre quand il a appris la découverte des corps de ses parents. « J'étais glacial car j'étais glacé. J'ai aussitôt pensé, maman a fait une connerie. J'aime mes parents, même si ma mère me l'avait demandé. » Je n'aurais pas pu les tuer. Il ajoute, s'ils avaient été grabataires, peut-être, mais pour leur âge, ils n'allaient pas trop mal. Procès qui semble être davantage favorable à l'accusé que le premier. La partie civile, à savoir la sœur de Geneviève Gournier, s'est désistée. Des témoins viennent à la barre décrire ce chirurgien respecté, un plombier du cœur. Un bon garçon. Papa a toujours été coureur, raconte l'accusé. Maman me reprochait de ne pas prendre parti contre papa. Je préfère penser qu'ils étaient d'accord pour mourir ensemble. Le docteur Gournier ajoute toutefois une nouvelle version. Selon lui, sa mère a tué son mari sous prétexte de le vacciner contre la grippe. Elle a ensuite tenté d'incendier la maison, puis s'est donné la mort. Avant que les jurés se retirent pour délibérer, le docteur Gournier affirme à la lecture des rapports et l'examen du bol alimentaire que ses parents sont morts à 23h, heure à laquelle il était en famille chez lui et non pas à 20h. Ses avocats indiquent que si leur client avait voulu faire croire à un suicide, il aurait laissé bien en vue la fameuse seringue. Ce dossier ne repose que sur des devinettes. On ne condamne pas un homme sur des hypothèses, indique ainsi maître Yamina Castelli. 4h30 de délibéré. Jean-Paul Gournier est acquitté.
C'est 10 ans de cauchemar qui se terminent parce que m'accuser d'avoir tué père et mère pour de l'argent, c'est purement scandaleux, mais ça a été fait. Il y a une cour d'assises qui m'a reconnu coupable dans certaines conditions. La cour d'assises d'appel de Lyon m'a rendu mon honneur.
À 22h30, le médecin quitte la maison d'arrêt de la Talaudière, près de Saint-Étienne, attendu devant la porte de la prison par son épouse et une poignée de proches. Maître François Saint-Pierre, voilà donc pour ce procès en appel cette fois. Il est acquitté, le docteur Gournier, parce que finalement, il n'est plus le même homme à ce deuxième procès. Il vient de passer un an en prison.
Vous savez, ce sont des épreuves vraiment tout à fait redoutables pour tout le monde, mais pour l'accusé aussi. Et j'ai toujours vu les accusés changer d'attitude, vivre très différemment leur procès d'appel, pour le meilleur ou pour le pire. Nous, on s'est quittés. Parce que moi aussi, ça m'a fatigué, ce procès. Mmh. Et par conséquent, ce sont deux excellents confrères, consoeurs, Yanina Castelli, que vous citiez, et Yves Sauvert, qui l'ont défendu à ce moment-là, mmh. sur la base du même argumentaire. Tout à l'heure, André Buffard disait qu'outre de faux témoins, Jean-Paul Gournier avait sollicité un contre-expert. Je m'excuse, mais solliciter un contre-expert dans une affaire d'empoisonnement, c'est le minimum du minimum.
C'est votre droit et le plus strict, c'est vrai.
Mais évidemment, et... En audience d'appel, c'est un expert canadien. La difficulté qu'on a, c'est de trouver des bons experts médecins légistes français, parce qu'ils sont tous dans des instituts médico-légaux, experts français, et ils se retrouvent en conflit d'intérêts. Donc, il faut les chercher ailleurs. Mais ce médecin a confirmé ce que j'avais dit en première instance, ce qui résultait des rapports d'expertise, c'est qu'après injection du tracrium aux doses retrouvées dans le corps de Mme Gournier, celle-ci disposait d'environ 50 secondes. Bon. Ce qui était suffisant pour, etc. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure.
Suffisant effectivement pour se débarrasser de cette fameuse seringue. Maître André Buffard, vous étiez l'avocat de Christiane Sinelli, l'une des sœurs de Geneviève Gournier. Elle s'est désistée de sa présence à cette audience en appel. Pourquoi ?
Parce qu'elle a subi des pressions pour se désister.
À ce point-là, maître.
Oui, dans le premier... au cours lors des écoutes téléphoniques qui avaient été ordonnées par le deuxième juge d'instruction, on entendait à plusieurs reprises le docteur Gournier demander à son entourage de faire en sorte d'éliminer cette partie civile gênante qui risquait de s'associer à l'accusation. Malheureusement, pour lui, en dépit de ses pressions lors du premier procès, Madame Sinelli est restée partie civile, mais peu de temps après le procès, elle m'a dit qu'elle avait subi un certain nombre de pressions, qu'elle ne voulait pas de problème. C'était une femme qui avait plus de 80 ans, qui était une femme fatiguée, et qui m'a dit, dans ces conditions, je préfère me désister. C'est la raison pour laquelle, devant la cour d'appel, et cela sans doute a servi beaucoup le docteur Gournier, il n'y avait pas de partie civile.
Un mot simplement, maître Buffard, quelle est la raison, selon vous, de cet acquittement ? Je l'ai dit, ce n'est pas le même homme, le docteur Gournier, à ce procès.
La raison de l'acquittement, tel que je l'ai perçu, c'est effectivement cet expert venu du grand froid canadien qui est venu expliquer que c'était tout à fait possible de s'injecter du tracrium et d'aller ensuite jeter la seringue dans une cheminée et de revenir et mourir sur son fauteuil.
Et ça a été effectivement l'élément capital qui a sans doute permis...
Ceci étant, il y a une chose qu'il faudra toujours essayer de m'expliquer. C'est pourquoi cette femme qui se suiciderait irait-elle cacher la seringue et reviendrait mourir dans son fauteuil au risque justement de faire accuser de meurtre ce fils qu'elle aimait tant.
C'est une question effectivement qu'on n'a pas tranchée et qui reste en suspens. Yves Bordenave, le dernier mot très court est pour vous. Le mystère est toujours total, on ne sait pas qui tenait cette seringue.
Ah oui, le mystère est toujours total, je suis bien d'accord. On ne sait toujours pas en vérité les circonstances exactes de la mort de ce couple, et on ne sait pas si au fond... Enfin, il a été acquitté, donc il n'est pas coupable, mais on ne sait pas en vérité ce qui s'est passé et comment ces deux personnes sont mortes.
acquitté par la justice, Jean-Paul Grenier va toutefois ressasser longtemps son amertume. L'enquête ne donnera aucune clé supplémentaire sur la mort de ses parents. Le médecin ne pourra plus jamais en parler. Il est décédé à la mi-décembre 2021. Le 14 décembre 2021, Jean-Paul Grenier, chirurgien cardiovasculaire âgé de 62 ans, rend son dernier souffle à Saint-Étienne, entouré de sa famille qui a toujours cru en son innocence. Malgré son acquittement le 25 juin 2009, il se sentait encore meurtri par cette épreuve. « Personne ne me rendra ma vie d'avant ». Même si la pluie s'est arrêtée le 25 juin. En 2012, il publie un livre témoignage intitulé « L'innocence empoisonnée » dans lequel il détaille les mécanismes d'une erreur judiciaire, ses 10 années de procédure et d'infamie qui se sont abattues sur lui. Les experts, médecins légistes, enquêteurs et magistrats ont voulu faire rentrer les faits à coups de chausse-pieds, racontait le médecin. Jean-Paul Grenier n'a plus jamais livré aucun détail supplémentaire susceptible d'enrichir les investigations. L'enquête n'a connu aucun rebondissement. Plus de 20 ans après le double empoisonnement de Saint-Priest en Jarret, personne ne sait qui a tenu la seringue utilisée pour tuer André et Geneviève. Et nous sommes donc toujours au cœur de cette énigme. Maître François Saint-Pierre, je racontais cette vie difficile finalement de Jean-Paul Grenier après avoir été acquitté. Il va porter comme un poids cette histoire sans arrêt. Je suppose que vous avez été en contact avec lui à ce moment-là.
Oui, je l'ai revu. On s'est revu parfois par hasard dans la rue. Je me rappelle à Paris, par exemple, un jour. Sinon, on s'est revu à mon bureau d'avocat aussi. Évidemment, cette affaire l'a vraiment meurtri. Et je crois qu'il ne s'en est jamais remis. Il a arrêté de pratiquer. Et j'ai donc appris récemment son décès. Je voudrais redire à ses enfants combien j'ai pensé à eux, à cette nouvelle, parce qu'on l'oublie trop souvent. Mais un procès criminel, ça implique aussi la famille des uns et des autres. Et les enfants de Jean-Paul Grenier ont terriblement souffert de cela. Alors j'espère qu'ils ont pu vivre leur vie, développer leur personnalité et s'affranchir de ce passé douloureux.
On ne sait jamais, lorsque vous avez un client, si effectivement vous demandez à votre client de dire toute la vérité, rien que la vérité, ça demeure un mystère de cabinet d'avocat. Mais comment vous aviez perçu Jean-Paul Grenier, ses explications? Quel était votre sentiment sur cet homme?
Vous savez, la question qui se pose à un avocat, c'est pas de croire son client sur sa bonne mine. Hein. Il s'agit de le défendre selon les règles du droit et par conséquent de contester les charges, d'exiger des preuves. La question donc de la vérité, pour un avocat, elle est, je vais le dire bien franchement, secondaire. La question était celle des preuves, et les preuves n'ont jamais été rapportées contre lui.
Les preuves n'ont jamais été rapportées, c'est un fait. Maître André Buffard, il n'y avait pas de preuves dans cette enquête, preuves matérielles, et puis ensuite beaucoup d'erreurs, deux juges d'instruction qui se contredisent, beaucoup d'imprécisions. C'est ce qui explique aussi ce silence judiciaire qui entoure toujours cette affaire?
Vous savez, c'est pas moi qui suis avocat pénaliste qui déplorerait qu'on acquitte quelqu'un au bénéfice du doute. Ceci étant, il faut rappeler une vérité, c'est que l'erreur judiciaire, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que la justice peut condamner à tort un innocent, mais qu'elle peut aussi innocenter à tort un coupable.
Et c'est votre sentiment, je suppose, dans cette affaire?
C'est mon sentiment.
Est-ce que c'est toujours une affaire qui a marqué votre carrière? Vous auriez peut-être aimé une fin différente, évidemment.
C'est une affaire qui a marqué ma carrière parce que effectivement j'ai été frappé, en particulier lors du premier procès, par l'arrogance de Jean-Paul Grenier, qui était persuadé que les arguments qu'il avait développés devant le premier juge d'instruction, les intimidations, les pressions seraient suffisantes pour obtenir son acquittement. Mmh. Ça n'a pas été le cas à Saint-Étienne. Il a obtenu un acquittement devant la cour d'assises d'appel à Lyon, tant mieux pour lui.
Mmh. Yves Bordenave, c'est une enquête que vous avez suivie. C'est une enquête, et ça arrive en matière criminelle, sans coupable, sans preuve. sans explication, finalement. On est toujours face à un mystère. Le mystère Grenier, il existe.
Oui, on est toujours face à un mystère. Et à titre personnel, moi, je suis convaincu qu'il y a un gros raté dans cette histoire. Ce que vous disiez au début de l'émission, et je vous rejoins parfaitement, il y a un gros raté dans cette histoire, c'est les premiers jours de l'enquête, où le juge d'instruction qui est saisi, c'est même pas qu'il se prend les pieds dans le tapis, c'est qu'il refuse d'enquêter et de faire son travail de juge, et d'aller à charge et à décharge, chercher des preuves, chercher des témoignages, demander des expertises. Ce travail n'a pas été fait, et d'ailleurs, le juge en question, qui est à la première, au premier procès d'assises, qui est interrogé, qui comparé comme témoin.
Ce qui est rare. Hein.
Ce qui est particulièrement rare, absolument, devant les assises. Il le reconnaît lui-même aux assises. Je crois que c'est Maître Buffard qui l'a interrogé de manière assez tenace, assez vive. Et il a reconnu lui-même qu'effectivement, il n'avait peut-être pas, j'ai pas le souvenir exact de son propos, mais grosso modo, c'était ça, qu'il n'avait peut-être pas fait exactement ce qu'il aurait dû faire en tant que juge, c'est-à-dire enquêter à charge, à décharge, avec tous les éléments qui étaient donnés. Et je pense que si mystère il y a, et il y a mystère aujourd'hui, même si le docteur a été acquitté, donc il n'est pas coupable,
ça,
mais en tout cas, le mystère demeure, et si mystère il y a, c'est parce qu'il y a un gros raté d'enquête dans les tout premiers jours qui suivent les faits, qui suivent le drame.
Je vais vous demander d'être très court, Maître Buffard, effectivement, un raté d'enquête, on est d'accord? Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, parce que dans un premier temps, l'enquête est mal dirigée aussi, et parce que immédiatement, le docteur Gournier explique que ses parents ont dû mourir d'un empoisonnement, et que sur sa bonne mine et sur sa réputation, on pense que c'est vraisemblable.
Maître Saint-Pierre, pareil, je vous demande d'être très bref. Selon vous, l'enquête n'a pas été faite dans les règles? On aurait pu trouver
c'est
peut-être...
Vrai. Mais ça n'est pas que la faute de ce juge d'instruction, c'est tout le système judiciaire qui reposait sur cette notion subjective d'intime conviction. Les affaires criminelles doivent être élucidées selon des procédures rationnelles sur la base de preuves matérielles et scientifiques. Voilà mon point de vue.
Merci beaucoup Maître François Saint-Pierre, Maître André Buffard et Yves Bordenave d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.